Les chroniques de Camille, les pérégrinations néo-rétro-culturelles, et où est-ce qu'elles nous emmènent cette semaine, mon cher Camille?
Et cette semaine, on part aux États-Unis et on va faire un petit voyage dans le temps de 99 ans.
Eh ben dis donc, ça ne nous rajeunit pas une époque où l'eau était au lycée. Et évidemment, ça remonte.
Ouais, exactement. Ouais.
Mais tu as connu quelqu'un, tu as connu une belle époque, ça veut dire. Tu as connu les dinosaures.
Oui, c'est une belle époque. Ah, quoi.
Écoute, c'est pas si vieux que ça. On avait des pantalons troués, on écoutait du grunge.
1925, c'est la ruée vers l'or dans les salles. Côté français, le fantôme de l'opéra. Côté bac, Louis Armstrong, Fred Astaire, George Gershwin, Joséphine Baker ou encore Maurice Chevalier, l'âge des légendes. Et la télé, me direz-vous, eh ben, elle n'existait pas, ma bonne dame. Bien sûr.
Ah non.
Dans une petite plantation.
Je te rappelle, bah,
forcément. La jeunesse. Dans une petite plantation de coton du Mississippi, il est l'heure pour le petit Riley B. King de naître. Il est le fils d'un couple de métayers. Ce sont donc des cultivateurs qui travaillent pour un propriétaire en échange d'une partie de leur récolte. Quand il a 4 ans, sa mère quitte son père et c'est comme ça qu'il se retrouve élevé par sa grand-mère maternelle, Elnora Farr, dans la petite ville de Kilmichael. Comme tous les gamins de cette époque, il va à l'église et il chante dans les chœurs gospel, évidemment. Il obtient sa première guitare alors qu'il a 12 ans, offerte par le cousin de sa mère, guitariste de Delta Blues, Booker White. Voilà. 1943. On passe quelques années déjà. C'est le banana split dans les salles. De quoi se demander pour qui sonne le glas? Dans les bacs, c'est le chant des partisans ou « Ah, le petit vin blanc ». Choisis ton arme, camarade. Hein. Oui, ça sort la même année, pourquoi pas. Et à la télé, c'est la première de Fans and Sender Paris, dirigée par Kurt Riesmann depuis la Tour Eiffel et qui aimait en allemand.
Alors, à tes souhaits, tu nous redis ça?
Fans and Sender.
Et Sender,
j'ai pas un bon accent allemand, en vrai.
Ah, tu fais en japonais?
Ça veut dire quoi?
C'est Télé Paris.
D'accord.
Ce qui deviendra Télé Paris, en fait. La télévision est apparue à Paris, en France, et c'était les Allemands qui l'avaient mis
pendant
en place.
Attends, j'ai pas suivi. On était occupé à ce moment-là ou
oui, on est en 43, donc la France est occupée par les Allemands, donc Paris. Et ceux qui ont commencé la télévision.
Voilà. Incroyable.
Yeah.
Je ne savais pas, j'ai appris ça. Riley a 18 ans. Il quitte Kilmichael et son gospel pour travailler en tant que conducteur de tracteur et jouer de la guitare dans le fameux St. John's Quartet à Inverness. À l'époque, il fait le tour des églises et des petites radios locales qui étaient encore extrêmement courantes. 3 ans plus tard, il fit quelques temps Booker White, donc le cousin de sa mère, à Memphis, avant de retourner au Mississippi pour s'entraîner. Il y fera l'écoute de Blind Lemon Jefferson, mort quelques années plus tôt, et apprendra à jouer du blues traditionnel à l'oreille. 2 ans d'entraînement plus tard, il retourne à Memphis et joue dans l'émission de radio du bluesman Sonny Boy Williamson 2, ouais, j'aime bien les noms très longs chez les bluesman, grâce à laquelle il commence à se développer un petit public. Riley a maintenant 23 ans et bah, il commence plutôt à bien se débrouiller, quoi. Si bien qu'il est engagé pour faire une émission de radio à son tour qui s'appelle le King's Spot. L'émission fonctionne très bien et elle va lancer sa carrière à la radio. L'année suivante, le jeune Riley enregistre son premier 78 tours avec Sam Phillips, producteur de ce qui deviendra le label Sun, plus tard connu pour Elvis Presley ou Johnny Cash. Ça va, c'est pas trop dégueu comme début. Quoi qu'il en soit, le succès du premier disque, bah, c'est plus que discutable. Voilà. Riley B. King est DJ depuis déjà 2 ans dans une radio à Memphis. Il s'est d'abord fait appeler Bill Street Blues Boy. Je vous avais dit qu'ils aimaient bien les noms qui étaient longs. Puis finalement, c'était trop long. Du coup, c'est devenu juste Blues Boy. Puis finalement, c'est devenu juste B.B. Ouais, c'était chiant, sinon. Voilà.
T'as pas un peu pu faire ça avec le nom de ta chronique? Finalement, réduire petit à petit. Non, ok, pardon.
À l'année prochaine, peut-être. Je penserai à choisir un mot.
LPNRC.
Pourquoi pas?
Oh là là. Il y a le début d'un porno. Pardon.
Presque. C'est alors qu'il rencontre T-Bone Walker, un guitariste de blues qui incorpore du jazz à son jeu et qui possède un instrument assez particulier pour l'époque, une guitare électrique. Le futur. Bah ouais, à l'époque, ça n'existait pas. Et cet instrument, il fait plutôt grande impression sur le jeune B.B. Dès que j'ai entendu, j'ai su qu'il fallait que j'aie une guitare électrique. Voilà. Bon, pourquoi s'embêter à trouver un magasin quand on peut se servir? Mais ça, c'est encore une autre histoire.
Voilà. Ah, il l'a volé, du coup.
Il l'a volé, ouais.
Et bien joué, Sherlock. La prochaine enquête, c'est demain.
Voilà. Ouais, il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. Hein. S'il y a une chose qui l'est moins, par contre, c'est la naissance de sa légende. Et tout est arrivé un soir d'hiver, alors qu'il jouait dans une petite bourgade à 70 km de Memphis dans un dance hall. Pour chauffer la pièce, ils utilisaient une sorte de poêle qui ferait de boîte kérosène. Ils faisaient ça à l'ancienne. Hein. Ils étaient au beau milieu de la pièce et les gens dansaient tout autour du poêle. Jusque-là, tout s'était plutôt bien passé, mais ce soir-là, il y a une bagarre qui éclate entre deux hommes. Ils se sont battus tellement violemment qu'ils ont renversé le poêle, si bien qu'il y a tout le carburant qui s'est renversé sur le sol et que tout s'est mis immédiatement à flamber. Forcément.
Débile.
Voilà. Forcément, tout le monde est sorti en courant, le jeune B.B. King également, bien sûr. Mais une fois qu'il était dehors, il a remarqué qu'il avait oublié sa guitare à l'intérieur et qu'en fait, il n'avait pas les moyens de payer $30 pour racheter une guitare neuve actuellement. Du coup, il est retourné la chercher. Voilà. Le lendemain, le dance hall, c'était un tas de cendres et les deux mecs qui s'étaient battus, bah, ils étaient tous les deux morts.
Oh.
Voilà. Et apparemment, ils se disputaient au sujet de la serveuse, justement, de l'endroit qui s'appelle Lucille.
Amour et rock'n'roll.
Ouais, c'est peut-être inspiré en vrai. C'est
qui
pas,
sait,
c'est...
Hein.
Ce serait fou. Hein. Tu nous ressortiras cette anecdote plus tard en disant « mais oui ».
Non, par contre, il y a un autre truc où je suis sûr que c'est inspiré. Et du coup, c'est en hommage à ça, en fait, B.B. King, il a décidé de nommer sa guitare Lucille, surtout pour se rappeler de jamais faire un truc aussi court de sa vie. De base, c'était vraiment pour ça. Une histoire dont va s'emparer Gibson, puis Epiphone, pour fabriquer des modèles à ce nom en hommage. Voilà. Et du coup, Lucille, la guitare Lucille, c'est également une des inspirations du manga Beck.
Ah !
Voilà, la guitare avec des impacts de balles dedans, elle s'appelle Lucille également. D'ailleurs, il y a une très très grosse ref à ça dans le film, qui est très bien. 1950, les enfants terribles sont dans les salles pour aller voir Rashomon de Kurosawa, bien sûr. Dans les bacs, Miles Davis fait un tabac avec son album Birth of the Cool. En France, c'est les frères Jacques. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Dans les petits écrans, c'est Jeu de l'amour et du hasard de Claude Barma, le père de Catherine Barma.
Ah oui, ok.
Ah, je savais pas qu'il faisait de la télé, son père. Il a une guitare électrique, il a des rêves et il a de l'énergie. Il ne manque plus que des musiciens. Et c'est comme ça qu'il va monter son propre orchestre, le B.B. King Review. Parmi les musiciens, on trouve George Coleman, saxophone ténor de Ray Charles, Miles Davis ou encore Charles Mingus, ainsi que Floyd Newman, saxophone baryton de Otis Redding, Aretha Franklin, Frank Sinatra ou même Barbara Streisand.
Eh bien, ça en fait du monde.
Ça commence plutôt bien, ouais. Le prestige est là, mais bah, la musique, c'est pas encore ça, quoi. B.B. King, il est pas encore très bon en accord et il se repose tout le temps sur l'improvisation. Le groupe parvient tout de même à faire le tour des États-Unis, d'abord dans des petits clubs, puis dans des salles un peu plus conséquentes, quoi.
C'est beau.
Au cours du voyage, il découvre la musique du regretté Charlie Christian, guitariste de jazz de légende, grâce à laquelle il améliore petit à petit son jeu. D'ailleurs, on va jouer à un petit jeu ensemble. Voilà, c'est le moment ou jamais.
Ah, un jeu où je peux pas gagner comme d'habitude.
Ah si, tu peux gagner en vrai. Peut-être pas sur celle-ci, mais tu peux gagner.
Je suis sûr que tu peux y arriver.
Fois, il va me sortir des noms que je connais pas.
Oh, ça a probablement déjà entendu ce nom quelque part.
Vous pouvez jouer dans le chat aussi. Hein.
Le blind test, bien sûr.
Oh putain, non mais gars.
Ah ouais, on va jouer au blind test tous ensemble.
Allez, au chat.
Allez, c'est parti.
Faut trouver le nom des artistes ou le nom des chansons?
Alors, c'est du jazz.
Le nom de l'artiste.
Ah, non mais j'aurais dit un début d'un Louis de Funès ou d'un Marcel Pagnol.
Je pense que t'es pas le bras.
Non, mais c'est Django Reinhardt, ça.
Bravo. C'est Django Reinhardt, en effet.
Mais le gars... T'as dit ça comme si, mais évidemment, mais c'est bien sûr. Mais c'est le plus connu dans le style.
C'est le plus connu, donc.
Ah,
ouais,
donc c'est le plus connu, je l'ai pas reconnu, au bout d'un moment, j'arrête de jouer.
Bah oui.
C'est pas un peu ça.
Les autres sont plus récentes, t'auras plus de chance.
Ouais, Django, je sais que c'est un film, mais ça s'arrête bien là. Hein.
C'est pas exactement le même.
T'as un film Django Reinhardt avec Sean Penn qui est hyper bien.
Ouais, exact.
Bah oui.
Et
bah,
du coup, il fera également la. Il fera également la connaissance d'un certain Django Reinhardt dont il s'inspirera pour les mélodies. Si bien qu'en février 52, sa chanson Three O'Clock Blues est numéro 1 du classement Billboard Rhythm, faisant de lui un des acteurs principaux du Rhythm and Blues. Voilà. À partir de là, la machine est lancée et les succès vont commencer à s'enchaîner. Et en à peine quelques mois, ses revenus par semaine passent de $85 à $2500.
C'est pas mal.
Et du coup, j'ai l'impression qu'il a commencé dans le blues, fait du jazz, puis dévié vers le rhythm and blues.
Alors, en fait, il a récupéré tout ce qu'il ne savait pas faire en termes de jeu dans le jazz, ce que d'autres faisaient avant lui, en fait, pour améliorer son jeu et s'affirmer dans le rhythm and blues. Ouais. C'est ça. Il a un peu étiré le blues pour que ça fonctionne mieux, on va dire. Pour que ça s'adapte un peu plus à lui. Mais du coup, déjà, à l'époque, $85 par semaine, c'était pas mal. Hein. Tant dire qu'à 2500, t'es le roi du pétrole, quoi.
Bah, surtout que les 2500 de l'époque, c'est pas les 2500 de maintenant, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est pas trop les mêmes échelles. En 1956, il va donner 342 concerts et trouve encore le temps de fonder son propre label qui s'appelle Blues Boys Kingdom. 342 concerts sur une année, ça fait beaucoup. Hein.
Ah ouais, quand même. Hein.
Ça commence à faire pas beaucoup de jours de repos, ça. Finalement, en 62, il signe chez ABC Paramount Records et enregistre 2 ans plus tard son album live le plus connu, Live at the Regal. I can always, you know, like, depend on Lucille. En 68, il sort d'ailleurs un album hommage à sa guitare, Lucille, tout simplement. Voilà.
C'est bien ce que j'ai entendu au début. Ouais,
ouais, ouais. Il raconte toute l'histoire d'ailleurs. Faites-vous plaisir, l'album est génial. 1969, il était une fois dans l'Ouest, dans les salles, mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Yellow Submarine avec les Beatles dans les bacs. Que je t'aime. Enfin bref, comme je t'aime moi non plus, hein, de Gainsbourg et Jane Birkin. À la télé, TV Apollo 11 et en direct, le Schmilblick.
C'est vrai. C'est vrai. Mmh. Quelle époque, hein.
C'est vrai que...
ouais, avec ouais. Léon Zitron, ça.
Ouais, c'est ça.
Mmh. Sacré Léon.
Une nouvelle musique arrive et met à mal le blues, le rock. Mais il en faut plus pour mettre à mal un des kings de la guitare blues à maintenant 44 ans qui signe un succès avec The Thrill Is Gone. Et du coup, c'est maintenant qu'on va pouvoir rejouer au blind test. Et ouais. Et là, t'as tes chances, Troyer.
Non, mais vraiment. Attends. Oui, ok. Tu sais quoi, je te fais confiance. La dernière.
Voilà. Ça, je suis sûr que tu peux le connaître.
Ah, les Rolling Stones.
Ouais.
Et moi, je crois que j'avais jamais écouté un seul titre des Rolling Stones. Hein.
Ah bah, t'en auras écouté 4 secondes.
Ah voilà, preuve. Eh, tu sais quoi, tu viens de me le faire découvrir. Non, mais j'ai... Oui, si, si. Mais bon.
Sympathy for the Devil.
Mais pas en 5 secondes, quoi. Tu me laissais peut-être une heure ou deux et peut-être que j'aurais fait le lien, quoi.
Et je vais faire la même remarque, il y a un très bon documentaire cette fois qui est passé au cinéma sur les Rolling Stones, où tu vois la création de ce morceau-là.
Peut-être tu me sors de l'électro, peut-être que, mais...
Ah, il n'a pas fait d'électro.
J'en doute pas.
La semaine dernière, il y en avait.
J'en doute pas. Derrière les platines, je ne le vois pas encore, mais oui.
Ouais, quoi que tu lui aurais laissé quelques années, il s'y serait peut-être mis.
Ah, oui.
Il s'impose dans un monde de jeunes rockers en pleine expansion et se retrouve à assurer la première partie d'un jeune groupe du moment, les Rolling Stones, dont il est lui-même l'une des sources d'inspiration. Ça va, pas dégueu. Sorte de pilier invincible d'un genre pourtant laissé à l'état de légende, il fera 74 apparitions dans le classement R&B de Billboard entre 51 et 85.
Ah, je savais bien qu'il avait fait du R&B. Attends, je vais la refaire. Je savais bien qu'il avait fait du R&B.
Ah là, on est bon.
Voilà, pardon.
Voilà, il fait quand même plus d'apparitions dans le classement en une année que les Ramones dans toute leur carrière.
Finalement, toute l'année, ça aura été ton point de repère.
Ouais, ça fait un bon début, tu vois. Comme ça, tu vois un groupe qui fonctionne bien et un groupe qui est... Ouais, c'est une légende, mais bon, voilà, quoi.
C'est pas du BB King, ça.
Et si. Voilà, les albums sont nombreux, bons, inspirés et surtout touchent tout le monde, aussi bien la jeune génération que l'ancienne. Il modernise son style, ajoute des instruments, de la sonorité et devient un coup plus funky, un coup plus rock selon ses envies. Voilà, on la fait pas à B. King, il est toujours dans le coup. 1988, Beetlejuice est le tombeau des lucioles dans les salles. Mais y a-t-il un flic pour sauver la reine? Nuit de folie dans les bacs. Normal quand Sabrina chante Boys, Summertime Love. De toute façon, c'est à cause des garçons. À la télé, c'est Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac et Lunettes Noires pour Nuit Blanche de Thierry Ardisson et Catherine Barma.
C'est pas mal cette année-là.
Ouais, c'est la meilleure année. Cette
année-là. Là. Non, pardon.
Ça, c'est plus avant encore. C'est...
Non, c'était ouais. Après plutôt. Non, ça dépend, non.
Je ne sais plus.
Non. Bon, c'était peut-être avant et ça. Après. Mais...
Il y en a eu aussi après. Hein. En 88, B.B. King, il a 63 ans. Allez, le Super Banco, vous connaissez?
Qui a gratté.
Non, ça veut dire que si jamais tu gagnes, tu remportes tout.
Ah, bah voilà, c'est un peu ça.
Ah, je me fais avoir à tous les coups avec ça.
Ah oui, voilà. Tu connais les trucs de... Ça vaut 20 000 points d'un coup.
C'est ça, c'est exactement ça.
Il y a une saison du YOLO Show, je ne sais plus laquelle, Troyer, il me faisait ça à chaque fois.
Ouais, mais c'est pour, c'est pour qu'il y ait un suspense infini. Moi, j'adore le suspense
ça
infini.
Ça fait plus de suspense, comme ça, tu as toujours une chance de gagner, c'est bien.
Non, mais je sais que je vais me faire... couillonner.
YouTube.
Ah bah oui, pour le coup, il est plus rapide, c'est vrai.
Ah oui, non mais tu vois, moi, U2, j'en connais 2-3, mais pas celle-ci.
C'est pas forcément la plus connue.
Je connais U2, mais d'autres.
Et en 88, du coup, ils visent encore une fois la nouvelle génération avec When's Love Come to Town avec U2, et encore une fois, bah, challenge réussi. Ils jouent d'ailleurs dans le film U2 Rattle on Him avec Bono, même s'ils trouvent que celui-ci est un petit peu trop jeune pour son texte. Une expérience qui revivra dans les années 90 en faisant quelques apparitions dans la série Marié deux enfants en 91, en 93 dans les films Troll de fantôme et Mr. Bluesman, en 95 dans Le Prince de Bel Air et enfin en 98. Si, si.
Ouais, mais des apparitions de stars dans les séries, c'était monnaie courante.
Oui, à l'époque, c'était un peu la mode, donc il vient faire un
avec des applauses et des rires enregistrés au moment où la star rentre en mode. Avec des fois, moi, je faisais ça et je suis en mode, je sais pas qui c'est.
Bah voilà, si j'avais dans la saison 5 du Prince de Bel-Air, vous voyez un gars arriver qui a tout le monde qui est comme des dingues, bah c'est lui.
C'est
voilà.
Lui.
C'est tout. Et en 98, dans le film Blues Brothers 2000.
Eh ben dis donc.
Et ouais. Dans le premier, c'était Johnny Hooker. Voilà. Donc il fallait bien en trouver un autre. 2000, justement. Gladiator dans les salles. Pourquoi faire pas de quoi faire trembler Taxi 2 ? On a ce qu'on mérite. Hein. Sex Bomb dans les bacs. Bref, je pète les plombs. Il y a bien que Tina Arena qui pense aller plus haut finalement. TF1 propose Energy Music Awards. France 3 répond. On peut pas plaire à tout le monde.
Eh ben, quelle époque.
Ouais, c'est la même année, comme quoi. BB King a 75 ans. Allez, un petit giga banco. Vas-y.
On va y arriver. En fait, il va remonter. Il va me mettre un truc du futur. Après, cette site n'est pas sorti. Il est fait par une IA. Tu dois trouver.
Ah, ça pourrait peut-être, mais non, ça pour le coup, c'est pas trop
clair. À moins de te larguer un titre au pif, et je vais piffer un groupe ou un chanteur. Bah là déjà,
on en a déjà parlé, donc en vrai, si t'en piffes un, si tu piffes le
groupe... Déjà là, c'est un groupe ou un chanteur unique, là ?
C'est un chanteur.
Un chanteur, pas un groupe, ok.
Ouais. Bah, allons-y, un chanteur dont on a déjà parlé. Je peux même te donner encore plus d'indices.
Non, pas d'indices, pas d'indices, allez, déjà, c'est un chanteur tout seul, ok. Alors moi, avec les noms, c'est bien le problème. L'eau, il l'a depuis, il attend que je le donne. Ah, c'est un qu'on a déjà parlé.
Je pense que c'est Johnny Hooker.
Non.
Non.
Ah bon, surtout que je sais pas qui c'est Johnny Hooker, donc si je voyais plus de chance maintenant, je... Donc c'est un Américain.
C'est un bluesman, en tout cas.
C'est un bluesman.
C'est un Américain.
C'est un Anglais.
Ah. Mais attends. On en a parlé maintenant. Non, c'est Clapton,
C'est Eric Clapton, ouais.
Ah ouais, on en a parlé dans une autre émission.
Donc on en a parlé dans une autre émission,
ah, ouais.
Ouais,
non mais là...
D'accord.
C'était pas Johnny.
Non, c'était pas Johnny.
Excusez-moi.
Non, en effet, un jour peut-être, mais...
T'avais proposé Ray Charles dans le chat, mais non.
Ah, c'était bien tenté, mais non.
Rappelle-nous dans quelle émission t'avais parlé d'Eric Clapton.
Eric Clapton, on en avait parlé quand on a parlé. Comment il s'appelle ce groupe à l'instant ? Yardbirds, voilà.
Ah, mais
évidemment, puisque c'était le premier, le premier vrai guitariste du groupe.
Effectivement, je m'en rappelle.
Et qui est une sorte d'ancêtre de Led Zeppelin, pour ceux qui n'avaient pas suivi.
C'est ça. Évidemment. Émission en replay, bien sûr. Partout, sur toutes les plateformes. Voilà, on en profite.
On est toujours à l'antenne. Voilà. Oui.
Et quoi de mieux pour fêter les trois quarts de siècle que de se faire un petit album avec. Dieu en personne, quoi. Il enregistre donc avec Eric Clapton, qu'il a également inspiré à l'occasion, l'excellent album Riding with the King. Très très bon album, je vous le conseille d'ailleurs. En 2005, alors qu'il a 80 ans, le roi du blues y réfléchit à sa fin de carrière et il entame une tournée d'adieu. Il s'organise donc.
C'est pas possible, au bout d'un moment, il y en a, il s'arrête à 40 ans, à 30 ans, à 50 ans, mais là.
Ah, lui, il s'arrête jamais, d'abord.
Alors, attends, quand tu joues du blues, t'es assis sur une chaise.
Oui, bon.
Il est plus tranquille. Mais après, faut les tenir quand même. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà. Du coup, il va s'organiser une petite tournée mondiale où il fait le tour de toutes les plus grandes scènes et festivals du monde, assisté par le génial Gary Moore.
J'ai cru que t'allais dire assisté par un respirateur, je me dis, oh là.
C'est encore... Non, il allait très très bien.
On n'en est pas là.
Gary Moore qui est mort avant lui d'ailleurs.
Ouais, c'est terrible. Mais la drogue. Hein.
Peut-être plus que lui en tout cas, ça c'est sûr. Bon, quand on lui demande si c'est sa dernière tournée d'adieu, il répond « Un de mes acteurs préférés est écossais, il s'appelle Sean Connery. » Et la plupart d'entre vous le connaissent pour son rôle de James Bond 007. Et un de ses films, bah, il s'appelle « Never Say Never Again ».
C'est vrai.
Voilà, déjà, il a tout dit. Alors qu'il a 83 ans, il se fait une petite tournée dans toutes les plus grandes salles de Paris. Et à l'occasion, il est nommé citoyen d'honneur de la ville, avec une rue à son nom. La classe, hein.
C'est beau, moi voilà. Je trouve ça propre.
Ouais, ouais, quand même, ouais. Mmh.
En 2010, il est invité par Eric Clapton pour participer au Crossroads Festival, Guitar Festival, pardon, où il rencontre encore des nouveaux guitaristes avec qui jouer, et il se retrouve notamment l'année suivante à jouer avec Carlos Santana à Paris, puis au Montreux Jazz Festival. Il s'entoure un petit peu pour ses vieux jours.
Ah bah oui.
Faut bien se faire plaisir. Hein. Il sera actif et enchaînera les concerts jusqu'en 2014, où il prend quelques mois de repos à l'âge de 89 ans.
Ça ne s'arrête donc jamais.
Moi, au début, je me suis dit, ok, t'as commencé ta chronique, c'était en 19, je sais plus c'est quoi le.
En 1925.
Je me dis, bon, ça devrait, quand on va être dans les années 80, on devrait voir la fin à peu près.
Bon, là, voilà, on y arrive.
Ça y est, là, je suis sûr que 89, il prend genre 2 semaines de repos et là, paf, c'est là qu'il claque.
Ah, ça aurait pu arriver, non, non, là, ce sera 2014 et finalement, il va s'éteindre le 14 mai 2015 à Las Vegas.
C'est pas si loin. Hein.
Triste.
Ouais, c'est... Ouais, 89 ans.
Devant les machines à sous, c'est fou. Hein.
Ah, bon endroit. De nombreux artistes vont évidemment s'empresser de lui rendre hommage, tels que Eric Clapton, bien sûr, Ringo Starr, Bono ou même Snoop Dogg. Parce que pourquoi pas, après tout. 67 ans de carrière, des récompenses à remplir à ras-bord un appart parisien, 44 albums. Ouais, il s'est pas ennuyé. Des duos avec les plus grands musiciens et artistes de l'histoire moderne, survivant invincible d'un genre pourtant oublié du grand public depuis 50 ans, et révolutionnairement toujours dans le coup, sans pour autant être différent. B.B. King, le roi du blues, est une légende que même sa propre mort ne parvient pas à arrêter.
C'est beau. Oh là là, est-ce qu'il y a le punchline ?
Ouais. Celle-ci, j'en suis content. Enfin, j'en suis content.
Attends.
Merci, merci.
Voilà. Allez, c'est quoi une deuxième parce qu'ils applaudissaient pas fort. Voilà, c'est ceux du fond de la salle qui ont entendu avec l'écho. Il fallait attendre un petit peu avant la fin. Je veux des claps de joie dans le chat, hein, évidemment. Mais oui, comme on le dit dans le chat également, c'est une sacrée vie bien remplie.
Ah, il s'est pas ennuyé. Hein. Il s'est pas ennuyé pour le coup. Et ce qui est incroyable avec ce gars, c'est que tu peux l'écouter à n'importe quel moment, on va dire en termes d'année.
Ah,
t'as toujours l'impression que...
toilette, sous la douche...
Bon, aussi, hein, mais t'as toujours l'impression que ça vient de sortir. C'est du blues de maintenant. Alors que ça peut dater des années 60, comme ça peut dater d'encore avant, comme ça peut dater des années 80. Quoi.
C'est beau. Enfin,
après.
C'est-à-dire qu'il était déjà en avance sur son temps à l'époque où on n'était pas dans le futur.
Bah, il est très intemporel hein, dans son jeu. Tu vois, autant t'as beaucoup de jazzman qui... Tu sais, ça, c'est le style années 40 ou années 50. Tu vois, c'est vraiment très,
que là,
très temporalisé.
Django Reinhardt, par exemple, c'est très marqué
voilà.
D'une période.
Bah, tu l'as dit, tu as directement trouvé à peu près la période dans laquelle ces chansons étaient utilisées, d'ailleurs. Rien qu'au son. B.B. King, tu peux pas faire ça. Et c'est assez dingue la façon dont il arrive à jouer ça, en fait.
En tout cas, gros GG à lui et encore et gros GG à toi pour ce amazing punchline de fin, on le redit. Hein. Tu peux la redire, vas-y, parce que tu l'as écrit, je suis sûr, tu en es fier, je te laisse nous la redire.
Let's go. B.B. King, le roi du blues, est une légende que même sa propre mort ne parvient pas à arrêter.
Eh bien, merci à toi, mon cher Camille, pour cette découverte ou redécouverte. Encore une fois, hein, le but, c'est de faire découvrir à tout le monde des stars internationales que personne ne connaît ou que tout le monde connaît. C'est un peu l'écart entre les deux, des stars ultra connues que personne ne connaît. Ou en tout cas, que moi, je ne connais pas, ou que
ça,
j'ai
ouais.
oublié. En tout cas, t'avais merci.
Sûrement déjà entendu parler de lui avant.
Oui, effectivement, j'écoutais ça tous les soirs pour m'endormir. Merci à toi, mon cher Camille, pour ces pérégrinations. On a hâte de voir, comme d'habitude, les prochaines. Et si vous voulez réécouter toutes celles qu'il a fait, évidemment, cherchez le YOLO Show. Notamment, vous allez sur YouTube, vous trouverez votre bonheur.